Bienvenue dans l'Antre du Gnome, votre série audio de fantasy. Vous vous apprêtez à écouter un épisode de la première saison, intitulé Les Parjures. Pour une meilleure expérience, installez-vous bien confortablement et utilisez un casque ou des écouteurs. Bonne écoute! Attention, ce programme peut contenir des scènes susceptibles de choquer les auditeurs sensibles. Il est déconseillé aux personnes de moins de 15 ans. Les plus éminents conseillers étaient rassemblés autour de l'imposante table de chêne. Ils regardaient avec inquiétude leur seigneur faire les 100 pas. Les choses se déroulaient trop lentement à son goût. Détruire ces erreurs de la nature prendrait des années s'il continuait ainsi.
Erto, combien de ces êtres infâmes ont quitté ce monde ?
Je n'ai pas de nombre précis, maître, mais tous les prisonniers de l'Inusie ont été ou sont exécutés sans sentence. Et dans les grands fiefs, il y a peut-être 2 ou 3 sacrifices par jour.
Seulement 2 ou 3 ?
Seigneur, il y a plus de 2 mois maintenant que nous avons demandé aux communs leur contribution. Ils commencent à se lasser.
Ils se lassent de servir leur déesse. Ces créatures ne méritent pas de respirer une seconde de plus.
Balord regarda les faubourgs de la ville un instant puis vint s'asseoir. Il jaugea les sorciers attablés à ses côtés. Chacun partageait son avis. Chacun connaissait le rôle qui lui était dû. Obéir et se taire. Déterminé, le hommage reprit.
Nous devons accélérer la purge. Annoncer un couvre-feu. Toute personne dehors à la nuit tombée sera automatiquement exterminée. Nous pourrons de cette façon nous débarrasser des clochards et des poivreaux du royaume en une seule nuit.
C'est une idée formidable, votre Altesse. Je vais de ce pas envoyer un corbeau aux autres.
Ai-je dit que j'avais terminé ?
L'intéressé se tassa sur sa chaise et prononça des excuses indistinctes.
En plus du couvre-feu, faites courir la rumeur qu'une prime sera accordée aux personnes dénonçant des infidèles. Les femmes seront également toutes avortées, par erreur médicale.
Un large rictus étira ses lèvres. Il souffla dans la pièce un vent glacial qui parcourut le cœur des mages. Eux, qui pourtant le connaissaient de longue date, n'avaient jamais eu aussi peur de lui que depuis la mise en œuvre de son plan. Balord continua pendant plusieurs minutes à exposer les différents aspects de son nouveau règlement. Certains des conseillers les accueillaient avec inquiétude, tandis que les autres affichaient un air de satisfaction.
Avez-vous bien compris ?
Monseigneur ?
Oui, Erto.
Ne craignez-vous pas que ces mesures entraînent un soulèvement ?
Le maître vint se placer derrière le conseiller et écarta les bras. L'air se chargea d'électricité, jusqu'à ce que des éclairs jaillissent au-dessus de la table, percutant le bois avec tant de violence qu'il se brisa dans un craquement assourdissant. Balord se pencha vers l'imprudent et murmura à son oreille.
« As-tu peur des communs, de ces êtres faibles et impurs ? Penses-tu que nous, enfants de la créatrice, nous ne puissions pas les maîtriser ?»
Le sorcier blêmit, mais garda le silence, les yeux écarquillés de terreur. Les éclairs disparurent soudain, rendant à la pièce son calme. Le hommage posa une main ferme sur l'épaule de son conseiller.
« Ne t'avise plus de sous-estimer notre ordre, sinon tu subiras le même sort que la table. »
Le hommage mira son reflet. Il était né avec ce visage. Du moins, c'était ce qu'on lui avait dit. D'un côté, il ressemblait à un homme d'une 60aine d'années, et de l'autre, il était un monstre. La partie gauche semblait avoir fondu et ne laissait voir qu'une peau rougeâtre et craquelée. Pour cela, on l'avait moqué, rejeté et battu alors qu'il n'était qu'un enfant. Sa mère l'avait abandonné pour cette raison, il en était persuadé. Mais l'apparition de ses pouvoirs avait tout changé. La force l'habitait surtout depuis qu'il avait découvert son don si particulier. On le respectait à présent. On le craignait. L'être faible et chétif était devenu un leader d'exception. Mais il n'oubliait pas. Il se souvenait de chaque insulte, de chacune des fois où des hommes, des femmes ou des enfants l'avaient frappé et laissé pour mort. Il s'en était toujours sorti, et grâce à l'ordre, il aurait enfin sa vengeance. Il débarrasserait la terre de ces créatures impures, misérables et arrogantes. Balord passa un doigt sur sa peau abîmée. Bientôt, la créatrice le remercierait d'avoir anéanti la race des hommes.
Thank you.
Nan déposa sa fille devant l'orphelinat. La vie aimait jouer avec les autres enfants et la nourrice acceptait de bon cœur de la garder quelques heures. L'homme devait trouver un travail pour la journée. Malheureusement, cela devenait de plus en plus difficile. Depuis la dernière annonce des mages, la délation allait bon train et personne n'avait plus confiance en son voisin. Nan avait vu de nombreux innocents être capturés par les troupes du haut mage. Les querelles se réglaient ainsi maintenant. On dénonçait son ennemi comme un infidèle, puis on le regardait aller à sa mort, se battant et hurlant.
C'est certain, même si la forteresse est la plus importante prison de Linusie, elle ne peut accueillir autant de détenus.
Le plus étrange était la récompense offerte aux mouchards. Ils étaient placés avec leur famille au palais ou dans l'une des grandes maisons du royaume, et on ne les revoyait plus. Les paroles de l'inconnu lui revinrent en mémoire. Tous ces événements laissaient penser qu'une guerre éclaterait bientôt. Mais pourquoi ? Pourquoi les mages voudraient-ils détruire les communs ? Leur banalité n'apportait aucun danger aux sorciers. Nahan mit beaucoup de temps à quitter la ville. Les contrôles au point d'accès avaient été renforcés et toute personne entrant et sortant devait être fouillée.
Qu'est-ce qu'ils cherchent ?
De la contrebande. Et prenez garde, mon petit. Ce sont des télépathes. Ils verront si vous êtes un infidèle.
Le visage de la femme se ferma. Son silence en disait plus que ses mots. S'il vous soupçonnait, vous étiez mort. Le corps de Nahan se contracta, les nerfs soudain à vif. Les rumeurs de génocide s'imposèrent avec violence dans son esprit. Si c'était la vérité, que les sorciers voulaient tuer les communs, quoi de mieux que l'accusation d'un télépathe pour condamner un homme ? Un frisson le parcourut à cette idée. Non, il ne devait pas réfléchir à ce genre de choses. Les mages risqueraient de l'entendre et il serait sans doute exécuté.
J'aime la créatrice, ma fille est toute ma vie, je cherche du travail. J'aime la créatrice, ma fille est toute ma vie, je cherche du travail.
Nahan s'obligea à répéter mentalement ces phrases alors que son tour approchait. Il ne restait qu'une personne devant lui. Une goutte de sueur perla sur son front. Son visage transpirait sans nul doute la culpabilité. Il fallait qu'il se détende. Trop tard. Les sorciers le firent avancer. Tandis que l'un d'entre eux le fouillait, l'autre le fixait avec insistance. Le père de famille esquiva son regard, mal à l'aise et inquiet.
Il a rien sur lui.
Son collègue, tout en continuant de le dévisager, sourit avec dédain. Son compte était bon. On allait l'envoyer à la forteresse où il serait tué.
Elle est jolie, ta fille.
Toute émotion disparut du cœur de Nahan au profit d'une seule. La colère. Ses joues s'empourprèrent et alors qu'il allait empoigner le mage, ce dernier le coupa.
Tu peux passer. Dépêche-toi, on n'a pas toute la journée.
L'homme resta quoi un moment, puis s'en alla prestement.
Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang ? Tu ne dois pas faire de vagues. Pense à la vie, espèce d'idiot.
Nahan chercha pendant de longues heures quelqu'un qui voudrait bien l'embaucher. Il se rendit dans toutes les fermes aux alentours de Sengan, mais partout, la réponse était la même. Certains domaines étaient dirigés, faits étranges, par des mages de la terre qui lui exhortaient de quitter les lieux en vitesse. Les communs des petites exploitations le regardaient d'un œil suspicieux et se cachaient à son approche.
« On veut pas d'ennui !»
C'est penaud et sans le sou qu'il reprit le chemin de la ville le soir venu. Les entrées n'étaient plus gardées et il se dépêcha de se rendre à l'orphelinat, la peau tiraillée par le froid. Une bouffée d'angoisse lui bloqua la poitrine quand Nahan vit la porte de l'édifice éclater et en partie brûler. Aucun son ne provenait de l'intérieur. Pas le moindre rire d'enfant, pas un seul cri. L'homme entra à la hâte.
« La vie !»
Aucune réponse. Le père courut vers la salle de jeu et s'arrêta dans l'encadrement, le souffle coupé comme si on lui avait asséné un énorme coup dans le ventre. Le désordre régnait. Des jouets jonchaient le sol, entourés par des meubles renversés. Les enfants avaient disparu. La pièce tourna subitement devant les yeux de Nahan. La bile lui monta aux lèvres et une chaleur étouffante enveloppa son corps. Il manqua de tomber. Quelques secondes passèrent avant qu'il ne retrouve ses esprits. Un profond sanglot dans le fond attira son attention. La gardienne. Assise sur le sol dans l'ombre, repliée sur elle-même, il ne l'avait pas remarqué. Elle pleurait, tenant une vieille poupée de chiffon rapiécée sur son cœur. Nahan se précipita dans sa direction et tout en se laissant lourdement tomber à genoux, s'écria.
« Où est-elle ? Où est mon bébé ?»«
Ils l'ont emmené. Les mages. »«
Quoi ? Pourquoi ?»
les yeux plantés sur le jouet dans ses mains, la gouvernante semblait ailleurs, terrifiée. Elle répondit d'une voix blanche, détachée, comme si on lui avait ôté la plus belle part d'elle-même.
Ils ont dit que les orphelins devaient être sacrifiés.
Nahan accueillit la nouvelle comme un coup de poignard, et son corps s'affaissa. Sa fille, sa petite fille, était seule avec des inconnus qui voulaient sa mort. La rage remplaça bientôt la stupeur. Il empoigna la femme avec violence et la secoua.
La vie n'est pas orpheline! Pourquoi n'avez-vous rien fait?
L'attitude de la gardienne ne changea pas. Elle se contenta de tourner la tête doucement, révélant tout son visage à la lumière. Nahan retint un cri. Une partie de sa face était lacérée de multiples plaies béantes dont le sang continuait de couler. Son œil n'était qu'une pâte visqueuse que sa paupière, coupée en deux, ne parvenait plus à contenir dans son orbite. L'homme crut apercevoir son crâne sous la chair en lambeaux. Saisi d'effroi, il se leva et s'enfuit. Une fois à l'extérieur, il inspira profondément l'air glacial qui lui mordit les poumons. La figure abîmée hantait son esprit. Comment pouvait-on faire une telle chose ?
La vie.
Le père ne se concentra que sur cette pensée. Il devait la retrouver coûte que coûte. Ignorant ses membres douloureux, Nahan partit le plus rapidement qu'il put en direction du palais. L'équipe de l'Antre du Gnome vous remercie pour votre écoute. Nous espérons vous revoir bientôt. Ce programme a été écrit par Mirado. Il vous a été conté par l'autrice ainsi que par Timothée Dolidon. Vous pouvez retrouver la liste des musiques dans la description de l'épisode. Les textes, les voix, ainsi que la chanson La Mésange sont protégés par le droit d'auteur.